Coxigru et Calambredaine.
Coxigru gru et Caxoglobelle. Coxigru et Calambredaine. Coxigru et Calambredaine.
Coxigru et Calambredaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Coxigru et Calambredaine. Alors Coxigru et Calambredaine, c'est comme la semaine dernière, c'est un numéro spécial enfant. Donc certains enfants se sont déplacés en studio et nous ont offert des lectures, des textes, des contes de leur choix. Donc je vous propose d'écouter ce deuxième volet et je vous souhaite surtout une bonne écoute. Alors voilà, Élise, ça lui tenait à cœur de lire Podane. Elle va nous lire 2-3 pages déjà, c'est pas mal. On va faire suivre le livre, comme ça ce sera vous toutes qui participerez à la lecture de Podane. Est-ce que ça vous convient à toutes ?
Oui.
Alors on va écouter Élise qui commence l'histoire de Podane et puis ben là c'est ce qu'on peut appeler un projet collectif. Quand tu es prête, Élise.
Podane de Charles Perrault. Il était une fois un grand roi. La reine, son épouse, était si charmante, si douce et si intelligente qu'il était le plus heureux des hommes. De plus, une merveilleuse fille était née de leur amour. Dans son vaste et riche palais, tout n'était que magnificence. Il avait dans son écurie de superbes chevaux dont les selles étaient couvertes d'or et de broderies. Mais chose surprenante, au milieu de cette belle cavalerie, prenez un âne aux grandes oreilles. Cela vous étonne, c'est que cet âne possédait un don extraordinaire. Il ne faisait jamais de crottins, mais de beaux et d'or qu'on allait recueillir tous les matins sur sa litière.
Or, le bonheur ne dure pas toujours. Un jour, la reine attrapa une terrible maladie. Mais ni les savants, ni les charlatans ne purent arrêter la fièvre qui la brûlait. Mourante, elle dit au roi, son époux, « Avant de mourir, j'exige une chose de vous. S'il vous prenait l'envie de vous remarier quand je n'y serai plus, je veux avoir votre promesse que si seulement vous rencontrez une femme plus belle que moi et plus sage que moi, vous pourrez l'épouser. » Le prince promit donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut. La reine mourut entre ses bras et le roi pleura beaucoup. Or, son deuil ne dura pas. Quelques mois plus tard, il voulut se remarier. Mais ce n'était pas si facile. Il lui fallait tenir sa promesse, et pour cela, sa future femme devait être plus belle et plus sage que celle qu'on venait d'enterrer. On ne la trouva pas, ni à la cour, ni à la campagne, ni en ville, ni dans les royaumes alentours. Seule la jeune princesse, fille de la reine, disparue, était encore plus belle que sa mère. Le roi s'en aperçut et décida que pour cette raison, il devait l'épouser. Désemparée, la jeune princesse pleurait nuit et jour. Elle alla trouver sa marraine loin dans une grotte faite de nacre et de corail. C'était une fée admirable. « Je sais ce qui te fait venir ici et combien tu es triste, mais ne te tourmente plus. Si tu m'écoutes, il ne t'arrivera rien de mal. » Ton père veut t'épouser, mais nous pouvons l'en empêcher. Dis-lui qu'il faut qu'il te donne un gage d'amour, une robe de la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et sa richesse, il ne pourra jamais accomplir ton souhait. » La jeune princesse alla donc trouver en tremblant son père amoureux qui, aussitôt, prévint les tailleurs de la cour que s'il ne lui faisait pas rapidement une robe de la couleur du temps, il serait tout pendu. Dès le lendemain, on apporta la robe désirée. Le plus beau ciel n'est pas d'un bleu plus harmonieux, mais de joie et de douleur, la jeune princesse ne savait que dire, ni comment faire pour éviter ce mariage.
Princesse, demande-lui une autre robe plus brillante, lui dit sa marraine, qui soit de la couleur de la lune. Il ne te la donnera pas. À peine la princesse l'a demandée au roi que celui-ci dit à son brodeur, « Que la robe que tu feras soit plus splendide que la lune. Tu as 4 jours pour y arriver. » La robe fut faite comme le roi l'avait dit cirée. La lune n'est pas aussi argentée que cette robe-là. La princesse était prête à accepter le mariage, mais influencée par sa marraine, elle dit à son père, « Je ne serai pas d'accord que lorsque j'aurai une robe plus brillante que le soleil. » Le roi fit aussitôt venir un riche bijoutier et le menaça de mort s'il ne faisait pas très vite une robe dans un superbe tissu d'or et de diamants. Avant la fin de la semaine, le bijoutier fit apporter les vêtements précieux, si beaux, si radieux que le soleil, lorsqu'il se promène dans le ciel, n'éblouit pas autant les yeux. La princesse était bien ennuyée. « Il ne faut pas en rester là, » lui dit sa marraine. « Ce n'est pas étonnant qu'il t'offre tout ce que tu désires. C'est facile avec l'âne qui remplit les coffres d'or. Demande-lui la peau de cet animal. Il ne veut pas s'en passer et ne pourra pas le tuer. » La fée ignorait que l'argent et l'or n'ont pas d'importance pour une personne amoureuse. Ainsi, la peau de l'âne fut apportée à la princesse dès qu'elle la demanda.
Cette peau épouvanta la princesse. Sa marraine la consola et lui dit qu'il fallait faire croire au roi qu'elle était prête à l'épouser et aussitôt s'enfuir le plus loin possible. « Voici, poursuit-elle, une grande malle où nous mettons tous tes habits, ton miroir, ta toilette et tes diamants. Je te donne aussi ma baguette. En la tenant dans ta main, la malle suivra ton chemin, toujours caché sous la terre. Et lorsque tu voudras l'ouvrir, il suffira de toucher le sol avec la baguette et aussitôt la malle apparaîtra. Cache-toi bien sous ta peau d'âne. Elle est si laide qu'on ne peut pas te reconnaître. » La princesse, ainsi déguisée, s'enfuit. Au lever du jour, le roi apprit sa disparition. On la chercha partout, dans chaque maison, à chaque chemin et à chaque avenue, mais impossible de la trouver. Partout se répandit une triste et un noir chagrin. Plus de noces, plus de fêtes, plus rien. La princesse, cependant, poursuivait son chemin, le visage couvert de crasse. Elle mendiait et tâchait de trouver une place de servante. Mais la voyant si laide, personne ne voulait d'elle. Elle alla donc bien loin, encore plus loin qu'un autre, dans un autre royaume. Enfin, elle arriva dans une ferme où on avait besoin de souillon pour nettoyer l'auberge des cochons. On la mit dans son coin, au fond de la cuisine, où les valets s'insultaient et la maltraitaient. On la surnomma Peau d'âne. Le dimanche, elle s'enfermait dans sa chambre et se décrassait, puis ouvrait la malle. Devant son grand miroir, elle mettait tantôt la robe de lune, tantôt celle du soleil et tantôt la belle robe d'azur. Elle aimait se contempler ainsi, jeune et belle. Dans cette grande ferme, il y avait d'immenses volières remplies d'oiseaux exotiques. Le fils du roi, au retour de la chasse, venait souvent se reposer dans cet endroit charmant. Peau d'âne l'aperçut et fut éblouie. « Qu'il a l'air grand, qu'il a l'air aimable, » disait-elle. Un jour, le jeune prince passa devant l'allée obscure où Peau d'âne habitait. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. On était dimanche et elle était vêtue de sa robe de couleur du soleil. Le prince la voya, fut comblé de plaisir, mais elle était si merveilleuse qu'il n'osa entrer.
De retour au palais, nuit et jour, il soupira, il ne voulait plus aller au bal, détestait désormais la chasse, le théâtre, il n'avait plus d'appétit, tout lui faisait mal au cœur et l'attristait. Il se renseigna sur cette jeune femme admirable qui vivait dans une basse cour au fond d'une sombre allée effroyable. C'est lui, dit-on, Podane, qui n'est ni une déesse ni rien du tout. On l'appelle Podane à cause de la peau de la bête qu'elle porte. Elle doit être aussi laide que la peau qu'elle a sur le dos. Il n'en crut rien. Cependant, la reine, sa mère, dont il était l'enfant unique, s'inquiétait. Le prince gémissa, pleurait, soupirait, ne disait rien, sauf qu'il désirait que Podane lui fasse un gâteau. « Mais qui est-ce que Podane ?» demande la reine. « Oh ciel, madame, lui dit-on, cette Podane est si vilaine. N'importe, dit la reine, il faut satisfaire le prince, c'est la seule chose. »
Podane prit donc de la farine, du sel, du beurre et des œufs frais et s'enferma seule dans sa chambre pour bien faire sa galette. D'abord, elle se décrassa les mains, les bras et le visage. On dit qu'en travaillant un peu, trop vite, sa belle bague tomba dans la pâte. Mais d'autres assurèrent qu'elle le fit exprès pour que le prince la remarque. En dévorant la galette, le prince faillit avaler la bague. Quand il vit le bel anneau d'or, il fut bouleversé, mais il ne guérissait toujours pas. Et les médecins, le voyant maigrir de jour en jour, jugèrent qu'il était malade d'amour. On décida donc de le marier. Il accepta à une condition, qu'on lui donne en mariage la personne à qui l'anneau irait parfaitement. Il allait si mal qu'on osa lui dire non. Voilà donc qu'on se met en quête de la future épouse du prince. Et voilà toutes les demoiselles qui s'apprêtaient à venir présenter leurs doigts. On commença par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, mais leurs doigts délicats étaient encore trop gros et n'entraient pas. Puis autour des comtesses et des baronnes et de toute la noblesse de présenter leurs mains. Ensuite vinrent les couturières, dont les jolis doigts semblèrent parfois s'ajuster à l'anneau, mais la bague, toujours trop petite ou trop ronde, n'allait à personne. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux dindonnières, dont les doigts abîmés espéraient un heureux destin. Il ne resta enfin que la pauvre Podane au fond de la cuisine. « Mais comment croire, disait-on, qu'elle puisse régner ?» Le prince dit, « Et pourquoi pas qu'on la fasse venir ?» Chacun se mit à rire, criant tout haut « Quel scandale de faire entrer ici cette sale guenon !» Mais lorsqu'elle tira de dessous la peau de bête sa petite main blanche et que la bague entoura parfaitement son petit doigt, la cour fut stupéfaite. On voulut la mener au roi, mais elle demanda avant de paraître devant lui qu'on lui donne le temps de s'habiller plus joliment. Tout le monde s'apprêtait à rire, mais lorsqu'elle entra et qu'elle traversa la salle avec sa robe plus brillante que le soleil, ses longs cheveux blonds mêlés de diamants, ses grands yeux bleus et sa taille fine, sa beauté émerveilla toute la cour. Le bon roi n'en revenait pas de voir sa future belle posséder tant de charme et le prince était comblé. Aussitôt, le monarque prit ses dispositions pour le mariage. Il invita tous les rois qu'il connaissait. On en vit arriver de l'Orient, monter sur de grands éléphants. Il en vint de tous les coins du monde. Le père de Podane fut invité. Il regrettait d'avoir voulu épouser sa fille. Dès qu'il la vit, il s'écria, en pleurant de joie, « Quel bonheur de te revoir !» À ce moment, la marraine apparut et raconta toute l'histoire et toute l'assemblée admira Podane davantage. Fin.
Donc voilà, hein, les lectrices, il y avait Élise, Léa, Thalie, Lilou, Charlotte et Mathilde. Merci à toutes.
Les 1000 ans de contes. Tome 1. Le trou dans l'eau.
Il était une fois un jeune homme beau, riche, qui avait décidé de se marier. Mais il était très difficile, aucune fille semblait lui convenir. Ceci était trop jeune, celle-là était trop orgueilleuse. Un jour, en passant près de la fontaine, il vit une jeune fille qui puisait de l'eau. Il s'approcha, parla avec elle et comme elle lui plaisait beaucoup, il revenut le lendemain. Finalement, il lui demanda de l'épouser et elle lui répondit « Celui qui veut m'épouser doit faire un trou dans l'eau. » « Mais c'est impossible !» s'écria le jeune homme. « Tu ne trouveras jamais de mari ?»« Si, j'en trouverai un !» répliqua la fille. En s'en allant, celui qui m'aime vraiment surmonte tous les obstacles. Le jeune homme se dit qu'elle est un peu folle. Il essaya de ne plus penser à elle. Au bout de quelques temps, il retourna pourtant à la fontaine. Mais la belle ne vint pas. Il faisait froid, si froid que la fontaine ne coulait plus et l'eau du bassin était gelée. Le jeune homme attendit longtemps, mais soudain, il eut une idée. D'un coup de bâton, il cassa un morceau de glace, puis courut chercher la belle pour lui montrer le trou qu'il avait fait dans l'eau gelée. Ils se marièrent au printemps et furent très heureux.
Ouais, il a été malin, hein, celui-là. Il a réussi à faire un trou dans l'eau.
Trou dans la glace, plutôt.
C'est l'amour hein, qui l'a guidé, j'ai l'impression.
Mais en fait, j'hésite entre deux. Il y en a une qui est connue, il y en a une qui est moins connue.
Alors, les deux sont courtes ?
Assez, oui.
Eh bien, si tu le veux, Lilou, tu peux peut-être faire les deux. Hein?
Pour toi, mon amour, je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux. Pour toi, mon amour, je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs. Pour toi, mon amour, je suis allée au marché de la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes. Pour toi, mon amour. Puis je suis allée au marché de aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Parole de Jacques Prévert.
Merci Lilou, super. Et alors j'ai l'impression que Mathilde, elle a envie d'en sortir.
Conte magique du monde entier de Margaret Maillot, illustration Jeanne Ray, Gauthier Langeroux.
Merci.
La princesse citron. Au temps lointain où les crapauds avaient des ailes, où les chameaux savaient voler, un roi et une reine avaient un fils unique qui s'appelait Omar. Un jour, ils décidèrent que le prince devait faire comme tous les princes, trouver une belle jeune fille et l'épouser. Le prince Omar se mit donc à la recherche d'une demoiselle. Mais ce « mais » est de poids, il n'en trouva aucune assez belle à son gré. À quelques semaines de là, une vieille femme s'approcha de lui et dit « Il est une princesse d'une rare beauté dont le soleil n'a point vu le visage. Elle est celle que vous cherchez, celle qui vous est destinée. Comment puis-je la trouver » demanda-t-il. « Chevauchez vers l'est pendant 3 jours et 3 nuits, révéla la vieille femme. Vous découvrirez un jardin entouré de rosiers où pousse un citronnier portant 3 citrons mûrs. Cueillez-les. Mais ne les ouvrez pas avant d'avoir atteint une région où l'eau abonde. » Le lendemain, dès l'aube, le prince Omar enfourchait son cheval. Après avoir chevauché vers l'est pendant 3 jours et 3 nuits, il atteignit un jardin entouré de rosiers. Il en poussa la porte, y pénétra, regarda autour de lui et découvrit le citronnier portant les 3 citrons mûrs. Il les cueillit et reprit la route par laquelle il était venu. Il ne tarda pas à s'interroger sur les citrons. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur ? Pour le savoir, il en choisit un, prit un couteau, ouvrit le fruit et une jeune fille d'une rare beauté lui apparut. « De l'eau, donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît, » implora-t-elle. « Hélas, de l'eau, il n'y en avait point par ici. » Aussi l'instant d'après, la demoiselle perdit tel son éclat et disparut. Le prince Omar en fut fort triste, mais ce qui était fait, il poursuivit donc son chemin. Il ne se passait guère de temps avant qu'il s'interrogeât de nouveau sur les 2 citrons restants. Y avait-il des jeunes filles à l'intérieur ? Pour en avoir le cœur net, le prince Omar en choisit un, prit son couteau, ouvrit le fruit et une deuxième demoiselle, d'une beauté encore plus rare que la précédente, lui apparut implorant. « De l'eau, donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît !» Hélas, de l'eau, il n'y en avait pas davantage par ici. Aussi, l'instant d'après, la demoiselle perdit-elle son éclat et disparut. « Je crois que je devrais prendre grand soin du 3e citron, » songea le prince en reprenant son chemin. Sa route le mena jusqu'à une rivière. Aussitôt, se rappelant les paroles de la vieille femme, il prit le dernier citron, l'ouvrit. « Oh, merveille ! Une demoiselle d'une beauté encore plus rare que les 2 précédentes apparut. Ses yeux avaient l'éclat de la lune, sa peau la pâleur de l'ivoire, ses longs cheveux noirs la douceur de la soie. « De l'eau, donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît, » implora-t-elle. Le prince Omar redoutait tant de perdre cette si ravissante créature qu'il la prit dans ses bras et la jeta dans la rivière. Oui, il fit cela. Et elle but l'eau pure et claire. Et une fois désaltérée, elle regagna la berge, telle qu'elle était, toute nue. Le prince retira son manteau et l'enveloppa. « Ma belle princesse citron, » murmura-t-il. Et vous seule êtes la femme qui m'est destinée. Mais avant de vous conduire au palais, permettez que j'aille chercher des habits pour vous vêtir, ainsi qu'un cheval pour voyager. Jusqu'à votre retour, je me cacherai dans ce peuplier, déclara la princesse Citron avant de dire. Incline-toi, grand arbre, incline-toi. Le peuplier se pencha aussitôt vers elle. Elle s'assit sur la cime et l'arbre se redressa tandis que le prince reprenait sa route. Le temps passa, le temps coula. La princesse Citron, perchée sur son arbre, attendit. Et voici qu'au bout de longues heures, une jeune servante vint puiser de l'eau à la rivière. Oh, qu'elle était laide, avec ses yeux méchants, ses cheveux emmêlés et son teint jaunâtre. Lorsqu'elle se pencha au-dessus de l'onde pure, elle crut voir son reflet et s'écria « Mais je suis ravissante, quand je disais que j'étais trop belle pour n'être qu'une domestique !» En réalité, elle contemplait le visage de la princesse Citron. Du haut de l'arbre, celle-ci lui lança en criant « Regarde en l'air et non en bas !» La servante obéit, la découvrit et s'étonna. « Que faites-vous donc ainsi perché dans ce grand arbre ?»« J'attends le prince, mon futur époux. Il doit me rapporter des habits pour me vêtir ainsi qu'un cheval pour voyager. » Une vilaine idée vint aussitôt à l'esprit de la servante. « Oh, charmante dame, laissez-moi vous rejoindre. Nous bavarderons et je vous aiderai à supporter ces longues et pénibles heures qui vous séparent de votre fiancé. » Comme la princesse Citron se sentait seule, elle ordonna « Incline-toi, grand arbre, incline-toi. » L'arbre se pencha et la servante se retrouva aussitôt dans les arbres en haut du peuplier. « Oh, charmante dame, » répéta-t-elle, « qui êtes-vous pour avoir de tels pouvoirs magiques ? Ne seriez-vous pas une fée du royaume des enchantements ?»« J'étais l'une de ces fées, » reconnut la demoiselle. « À présent, j'ai choisi d'entrer dans le monde des hommes pour devenir princesse. »« Oh, charmante dame, » reprit la servante, « permettez-moi de peigner vos longs cheveux noirs. » Alors qu'elle commençait à la coiffer, elle découvrit une épingle dans la longue chevelure. « Oh, charmante dame, qu'est-ce que ceci ? » demanda-t-elle. « Mon talisman, » révéla la princesse Citron. « Surtout n'y touche pas. » À l'instant, la servante s'en saisit. Alors, pfut ! La princesse devint une colombe, battit des ailes, puis s'envola. La servante posa ses vêtements, les jeta dans la rivière, et tandis qu'ils s'en allaient au fil de l'eau, elle se drapa dans le manteau du prince et l'attendit.
Lorsqu'il arriva et qu'il vit cette jeune fille si laide perchée dans le peuplier, il fut fort étonné. « Comme vous avez changé !» s'exclama-t-il. « Que s'est-il passé ?»« Votre teint est devenu jaunâtre. » « C'est le soleil, monseigneur, répondit-elle. Ces rayons ardents ont brûlé ma peau. Mais vos lèvres, elles semblaient douces comme un bouton de rose. Que leur est-il arrivé ?»« C'est le vent, monseigneur. Il a tant soufflé qu'il les a gercés. » »« Mais vos yeux, si grands et si brillants, ce sont les larmes, monseigneur. J'étais si sûre de ne plus vous revoir que j'ai beaucoup pleuré et mes yeux ont rougi, gonflé. Mais vos cheveux, doux comme de la soie. » C'est le corbeau noir, monseigneur. En voulant faire son nid dedans, il les a emmêlés. Et la rusée servante descendit de l'arbre en prétendant. Le temps guérit tous les maux, monseigneur. Bientôt je redeviendrai comme avant. Le prince Omar la crut et lui offrit une somptueuse toilette. Un pantalon bouffant, du même bleu que le ciel d'été, un corsage de soie blanche orné de perles fines, une veste brodée de fil d'or, des babouches cloutées d'or, un diadème et des bracelets du même or. Elle s'en vêtit et ensemble y regagnèrent le palais. Lorsque le prince présenta sa fiancée au roi et la reine, ceux-ci découvrant sa laideur s'écrièrent « Comment ? Ceci est votre bien-aimée ? Cela ne se peut !»« Que si ? Répondit le prince. « Je lui ai donné ma parole et dans 40 jours notre mariage devra être célébré. » Dès lors, dans le jardin qui entourait le palais royal, une colombe se posait et chantait sur la branche d'un santal chaque matin. Chaque matin, le prince Omar venait sous l'arbre l'écouter et chaque matin, il soupirait. Comme il est triste, le chant de la colombe. Quand la servante entendit ces mots, elle alla trouver le jardinier. Le prince t'ordonne de capturer la colombe qui chante si tristement dans le santal, de la tuer et d'ensevelir son corps profondément sous terre. Le jardinier tua donc l'oiseau et l'enterra. Or, le lendemain, à l'endroit précis où reposait la colombe, avait poussé un grand cyprès dans lequel le vent sifflait. En voyant l'arbre, le prince Omar, tout surpris, « Quel est ce prodige, un cyprès, là où il n'y avait rien hier ?» Il entendit alors le vent siffler dans l'arbre et soupira. « Comme il est triste, le souffle du vent dans les branches. » La servante s'en alla sur le champ pour trouver le jardinier. « Le prince t'ordonne de couper le cyprès et d'en faire un berceau pour le fils que je lui donnerai. Brûle le bois qui restera. » Le jardinier coupa donc l'arbre. Les ébénistes du palais le débitèrent en planches et en firent un berceau. Alors le brave homme réunit le bois restant et le brûla. Il s'apprêtait à jeter dans le feu une dernière petite branche lorsque la vieille nourrice du prince vint passer près de lui. Comme elle lui demandait un peu de bois, il lui offrit cette dernière petite branche de cyprès qu'elle déposa bientôt près de sa cheminée avant d'aller au marché. Au moment où elle fermait sa porte, la branche commença à s'agiter en tous sens, puis elle se métamorphosa en jeune fille. Une jeune fille d'une rare beauté, et pour cause. C'était la princesse Citron en personne. Aussitôt, elle se mit au travail, elle balaya le plancher, elle lava la vaisselle, elle éplucha des légumes, elle prépara un repas. Une fois son travail achevé, elle se cacha derrière la porte. « Qui a fait tout cela ?» demanda la nourrice à son retour. « Est-ce un être humain ? Ou une fée du royaume des enchantements ?» La princesse Citron sortit vite de sa cachette pour lui dire « Je nettoyais et cuisinais pour toi. À présent, à ton tour de me rendre service. J'aimerais que tu ailles trouver le prince Omar, s'il te plaît. Dis-lui que chez toi, une jeune fille confectionne de jolis tapis et que s'il te donne des fils de soie, elle tissera pour lui le plus beau qu'il soit. » La vieille nourrice se rendit auprès du prince qui ordonna sur le champ de faire remettre à la demoiselle les fils de soie et tout ce dont elle pouvait avoir besoin. C'est ainsi que la princesse Citron commença pour lui un tapis. Le temps passe, le temps coule. Arriva le jour des noces du prince Omar et de la rusée servante. Elle n'avait pas changé, elle était toujours aussi laide. « Ce ne peut être que la princesse Citron, la femme qui m'est destinée, songeait le prince. Je lui ai donné ma parole, je dois l'épouser. » Mais très tôt ce matin-là, la vieille nourrice lui apporta le tapis achevé. « Monseigneur, dit-elle, voici un cadeau de mariage. » Le prince Omar déroula le tapis et l'observa. Il était orné d'un joli jardin bordé de roses, au centre duquel était représentée la princesse Citron. « Qui a tissé ce tapis ? » s'enquit-il. « une jeune fille qui vit chez moi. Cours la chercher, ordonna-t-il. La princesse Citron fut bientôt au palais. À la seconde où le prince Omar la vit, il la reconnut. Vous et vous seule êtes ma belle princesse Citron, la femme qui m'est destinée, celle que je dois épouser, s'écria-t-il. Mais dites-moi, où étiez-vous passé? Que vous est-il donc arrivé pendant ces tristes jours sans fin? La princesse Citron parla de la rusée servante et de ses projets diaboliques. Le prince Omar en fut si courroucé qu'il envoya ses gardes la chercher, mais à peine la servante comprit que son secret était découvert, qu'elle s'enfuit à toutes jambes, poursuivie par les gardes, elle courut jusqu'à la frontière du royaume, elle courut à travers le royaume voisin. On prétend même qu'elle court toujours. Qu'importe, enfin le mariage du prince Omar et de la princesse Citron pouvait être célébré. Pendant ces 7 jours et 7 nuits, les flûtes jouèrent, les tambours résonnèrent, les festins, les danses et les réjouissances se succédèrent. Conte persan.
Alors, on est à l'écoute de Tali.
Conversation. Le porte-monnaie. Je suis d'une incontestable utilité. C'est un fait. Le porte-parapluie. D'accord, mais tout de même, il faut bien reconnaître que si je n'existais pas, il faudrait m'en vanter. Le porte-drapeau. Moi, je me passe de commentaires. Je suis modeste et je me tais. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de parler. Le porte-bonheur. Moi, je parle bonheur parce que c'est mon métier. Les 3 autres, hochant la tête. Jolie mentalité.
Allez Lilou, on t'écoute.
Belle famille. Louis 1, Louis 2, Louis 3, Louis 4, Louis 5, Louis 6, Louis 7, Louis 8, Louis 9, Louis 10, dit le hutin. Louis 11, Louis 12, Louis 13, Louis 14, Louis 15, Louis 16, Louis 18. Et plus personne, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20.
Toujours du Jacques Prévert. Et voilà, Coxigru et Calambreden, c'est terminé. Alors vraiment un grand merci hein, à Léa, Mathilde, Lilou, Tali, Charlotte et Élise pour nous avoir donné ces moments de simple et pur bonheur. Donc ce numéro spécial enfant est désormais disponible en podcast sur le site www.rdwa.fr et ce de manière illimitée. Je vous informe que très prochainement je réitérerai cette expérience, je réinviterai des enfants donc pour qu'ils viennent nous offrir leurs histoires favorites. En attendant, moi je vous remercie de votre écoute, on se quitte avec un petit morceau de musique et je vous dis à très bientôt dans Coxigré et Calambreden. Bye bye.
Patara pichida me karga ti te la beranga. Patara pichida me karga ti te la beranga. Ana lilian chalili khomargina khat anali an chalili khomargina khat ushenobi jeirano mo mitrenia dardis gardame am kernad radam richenia Tana tsugalop tan tsremlebi chamomdenia Vitomogalop tan tsremlebi chamomdenia Nacer, nacer, glubli modis, maglaci dana. Nacer, nacer, glubli modis, maglaci dana. Istol gargevi sam gavda vinat mi guarda sat dal gargevin sam gavda vinat mi guarda how how Gashalip tebi ceyranım. 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 Ha ha. Batarabici da me garga. Batarabici da me garga 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 Patarabici da me garga patarabici da me garga patarabici da me garga da me garga da me garga da me garga ha patarabici da me garga ci te lo beranga patarabici
Coxigru et Calambre d'Aisne.
Coxigru et Caxangle Belle. Coxigru et Calambre d'Aisne.
Coxigru et Calambre d'Aisne.